extraordinaire. Je ne parle pas des anciens, je parle de ceux qui n'étaient pas adhérents l'année dernière. Voilà. Voilà. Mais c'est comme le retour du fils prodigue, on attend avec impatience que les gens qui nous ont un petit peu laissés pendant ces périodes troublées reviennent au bercail. Voilà. Alors, avant de vous faire mon exposé, je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas celui dont on va parler ici. J'en reparlerai le 19 au moment des ateliers. C'est que nous lançons une grande enquête. Grande enquête. J'ai fait une petite affiche qui est sur la porte, là, sur l'histoire industrielle de Châlons dans les 40 dernières années. Et donc, bon, c'est un concours de circonstances qui m'a fait lancer cette opération, parce que c'est confirmé que, semble-t-il, au bout de 6 mois de recherche, personne n'a écrit quoi que ce soit sur le sujet. Alors, s'il en faut qu'un, c'est pas moi, c'est nous. Voilà. Parce que je peux pas. Et comme beaucoup de gens d'adhérents du TB ont fait leur carrière à un moment ou un autre dans des boîtes de Châlons, eh bien, on les sollicite pour qu'ils nous fassent des témoignages. J'avais déjà une personne ce matin qui m'a apporté sa copie. Donc j'avais sollicité verbalement, et donc il m'a fait 6 pages de témoignages. Voilà. Donc j'en parle comme ça, vous allez à nouveau recevoir des mails pour parler de ce sujet, et l'idée, ben, c'est si vous voulez participer à cette aventure, eh bien vous prenez contact avec l'UTB par tout moyen connu, le téléphone, le mail, et nous, le secrétariat, tout ce que vous voulez. Et puis, on notera vos références et vous serez sur les listes. Voilà. Alors, donc, je vais vous présenter le programme. Alors, peut-être que certains d'entre vous étaient là au mois de mai. Non ? Donc, ceux qui sont venus sont déjà venus au mois de mai. Bon, en disant, oui, on l'aime bien, mais enfin... à la deuxième séance, c'est un peu casse-pied. Alors, il y a quelques petits changements par rapport à ce qu'on avait prévu. Donc, je rappelle que le catalogue tel qu'on le diffuse, il est tel qu'on avait pu le faire au mois de mai, plutôt même au mois d'avril. Donc, entre le mois d'avril et maintenant, ben, à la marge, il y a des petites modifications, il y a des conférences qui sautent et d'autres qui arrivent. Ou alors le nom des conférenciers change. Donc, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière ? En quelques mots, le Covid, on va dire, il a disparu. Il y a eu quelques petites perturbations liées aux mouvements sociaux, mais il y en a toujours. Et surtout, la grande évolution, c'est qu'il n'y a plus de concierge à la maison des syndicats. Vous savez, notre amie Françoise, donc, elle a pris sa retraite et elle n'a pas été remplacée. Donc, on a trouvé une formule avec des clés qui sont dans une boîte à code, là, à la porte d'entrée, et donc nous sommes complètement autonomes, et on a, en principe, on n'a pas de manipulation de chaises à faire, puisque la configuration de base, c'est celle qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, si les gens veulent faire autre chose, c'est eux qui enlèvent les chaises et qui les remettent ensuite. Voilà, en principe. L'année dernière, une fois, on est arrivé avec la salle vide. Bon, enfin, on a fait ce qu'il fallait. Donc, on va dire globalement, ça fonctionne quand même pas mal, sauf que, ben, par exemple, on vient de découvrir qu'il y a le fil du câble du micro, il y a un faux contact, il est sûrement dessoudé dans la prise, donc c'est pour ça que je téléphonais. Ben, avant, on s'adressait, c'est pas elle qui soudait le fil, mais enfin, bon, c'est elle qui transmettait la demande de réparation à la vie associative. Donc, j'appelais directement la vie associative. Donc, ce que l'on a constaté ces 2 dernières années, bon, le Covid, tout le monde l'a connu, mais même l'année après Covid, eh bien, les anciens qui étaient restés confinés chez eux, ben, on dit finalement, j'ai survécu. L'UTB, ça ne m'a pas empêché de... on espère qu'il y ait un petit retour au bercail en disant... Ah oh ben finalement l'UTB c'était pas mal, ça nous manque un petit peu, donc on va peut-être revenir. Voilà. Et donc, ben, je compte sur vous tous, vos réseaux amicaux, pour booster, puisque vous savez que nos seules ressources sont nos cotisations et qu'on était la tête sous l'eau depuis 3 ans, hein, déjà. Et en plus, eh bien, on est comme tout le monde, l'inflation, les charges, le machin, on a augmenté quand même de 15% Muriel en un an. 15%. Bon, elle fait un quart de notre budget. OK ? Donc, situation financière dégradée. Alors, comme chaque année, on essaye d'identifier des grandes lignes directrices du programme. Et on fait une agglomération de certains thèmes, c'est-à-dire de conférences qui sont données par des conférenciers différents sur ce même thème. Alors, l'histoire de l'art, ben, c'est incontournable à l'UTB. On le met depuis que l'UTB existe, donc là, il n'y a pas de problème. Et on a dit, on va faire la Révolution française. Je l'ai dit au mois de mai, en faisant ce que l'on a fait depuis 20 ans. Curieusement, on n'a jamais traité la Révolution française en tant que telle. On a pris monsieur machin, madame truc, ou tel événement très particulier, mais la Révolution en tant que telle, on ne l'a jamais traitée comme ça. Bon, ben c'est comme ça. Alors, pour éviter faire le cours de lycée, peut laisser de mauvais souvenirs aux lycéens qu'on a été. Donc on a essayé de trouver des thèmes un petit peu différents de l'événementiel Monsieur Marat, Monsieur Robespierre, Monsieur Machin, Monsieur Truc. Ça, c'est un peu casse-pied. Alors vous verrez ce qu'on vous propose. L'Ukraine, incontournable. Je rappelle que l'an dernier, le 1er avril 2022, on a eu une conférence ici par un conférencier de la Sorbonne. Il y avait 235 personnes. Et il y a des gens qui sont ressortis, parce que ça ne tenait plus dans la salle. Donc là, on a fait un tabac. Il revient, il va nous faire une conférence plus historique que ce qu'il avait fait, parce que c'était plus... Enfin, c'était mélangé historique et actualité. Histoire de l'égyptologie. En tant que telle, l'égyptologie, on va dire, elle a été pratiquement inventée par Vivant Denon, hein, le chalonnet de service. Hein, je vous ai fait une conférence sur Vivant Denon l'année dernière. Mais il y a tout un ensemble d'événements qui sont liés à l'Égypte. Et vous savez que les Français ont toujours été accros à l'Égypte, peut-être à cause de Napoléon, de Bonaparte, mais il y a eu les suivants, les Mariottes et compagnie, donc les grands égyptologues jusqu'à maintenant, il y a toujours eu des Français qui tenaient le devant de la scène. Les changements majeurs de la période actuelle, bon, c'est enfoncer des portes ouvertes de dire que le monde change très vite, ça fait l'acmé des magazines. Hein. Donc, comment ne pas tomber dans les marronniers incontournables de tous les magazines qui vous saoulent du matin jusqu'au soir sur ce sujet-là. Donc, on va essayer d'être intelligents et originaux sur ce sujet-là. L'histoire de l'érotisme, alors ça, c'est notre ami le Quiddick qui me casse... les pieds depuis un certain temps pour ça, mais alors si vous ne le connaissez pas, venez l'écouter. Alors, c'est à 16h30, ça c'est vrai. Il est toujours il est enseignant et il est d'une culture littéraire. C'est un professeur de lettres, mais il a une culture absolument extraordinaire. Et donc on va passer de l'Antiquité comme d'habitude jusqu'à la période moderne en disant que ce concept d'érotisme, comment il est perçu en fonction de l'état de la société. Et on verra qu'il y a beaucoup d'évolution dans la perception de ce concept. Et les évolutions récentes des sciences du vivant, ça aussi, c'est un peu un marronnier des magazines, mais on a la chance d'avoir quelques vedettes qui viennent du muséum ou de labo de recherche sur Dijon, qui nous font, en plus, qui sont de très bons conférenciers, donc on les utilise. Voilà. On y va. Histoire de l'art. Dans l'histoire de l'art, je mets tout, bien sûr, la peinture, la sculpture, mais également l'architecture, le théâtre, le cinéma, etc. Donc, 18 conférences, voilà la répartition, je passe vite. Et c'est en discutant avec cette dame, Elina Kersaudy, c'est la femme de M. Kersaudy. M. Kersaudy, vous le connaissez, c'est François Kersaudy, qui est un historien, qui a un don d'imitation du général de Gaulle extraordinaire. Mais son épouse, elle était enseignante, hein, et elle a préparé ce sujet-là en disant, mais finalement, qu'est-ce que c'est que l'art? C'est une bonne question. Ça, c'est une question d'agrégation d'histoire de l'art. Alors, bon, on va voir ce qu'elle va nous proposer. Si on vous pose la question ex abrupto, ben c'est pas très facile de répondre à la question. Voilà. Bon, on va l'écouter. Alors, notre ami Cyril Brulé, notre architecte conférencier, là, je rappelle, il a beaucoup de succès, il est très bon, hein, au point de vue conférence, et il nous propose... toujours pareil, de l'art nouveau et surtout le Bauhaus. Annie XP l'a fait il y a une dizaine d'années, ça, et donc on va réviser le Bauhaus. Il a fallu absolument que je trouve une photo où le nom était marqué, parce que le Bauhaus, c'est de l'architecture, c'est de l'art décoratif, c'est de la peinture, c'est une école, on va dire. Alors là, on n'a pas pu résister. Donc Mathieu Pinette nous a dit, moi j'ai un petit truc là, ça peut vous intéresser. La Sainte-Chapelle, on prend, il n'y a pas de problème. Et surtout avec Mathieu Pinette. Mais surtout, Jean-Denis Salvec, alors c'est un nouveau, mais je le connais bien depuis longtemps, qui est le chef du centre des études clunisiennes, hein, il habite à Cluny, et tout ce qui concerne l'abbaye de Cluny, c'est un super expert de la chose. Et alors, d'habitude, il ne parle que de Cluny, tout ce qui tourne de Cluny, donc j'apprends, il y a un an, qu'il avait une conférence en stock sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Par ici, vous nous la faites chez nous. Ah, vous connaissez Joseph Touchemoulin? Pas vraiment. Donc c'est la découverte. C'est un violoniste qui est né à Châlons, mais il a fait toute sa carrière en Allemagne. Il est mort à Magdebourg. Il y en a un autre qui est mort à Magdebourg aussi. Et il a été découvert il y a une vingtaine d'années en retrouvant des partitions. Et la maison dans laquelle il habitait, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui dans la rue aux Fèvres le jardin des saveurs. Mais sa maison, c'était la cave, parce que au XVIIIe siècle, le niveau de la rue aux Fèvres, il était 2 mètres plus bas que celui d'aujourd'hui. Donc la cave, c'était en fait le rez-de-chaussée. Et donc il y a des gens qui se sont mis à étudier. Donc c'est un il a fait des quatuors de cordes au XVIIIe siècle. C'est un très bon musicien, mais il est totalement méconnu. Donc, et j'ai demandé au spécialiste de ce bonhomme-là, qui s'appelle Patrick Ayrton, qui est un claveciniste qui habite dans la région, il est baroque, hein, il est spécialiste du baroque, donc de nous raconter Joseph Touchemoulin, encore un Chalonnais célèbre. On a déjà fait de noms et vous allez en voir d'autres. Alors, nous avons notre musicienne de service, Joëlle Farinck, et je lui ai posé le défi en disant, est-ce que vous savez faire la conjonction entre la révolution et la musique? Alors, au début, elle a fait un peu des bulles, hein. Et au début, elle n'était pas très enthousiaste. Et puis après, elle dit, ben finalement, je vais essayer. Et là maintenant, elle est pleine d'énergie. Et elle a dit, ça y est, je tiens le sujet. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Donc Joëlle Farinck, je rappelle, elle était enseignante à la fac agrégée de musique, à la fac de Dijon. Et il n'y a plus que l'UTB de Châlons où elle accepte de faire des conférences parce qu'elle nous aime bien. Donc on ne peut pas refuser. Mais en fait, j'insiste un peu, c'est clair. Donc elle le fait avec grand plaisir. Si vous ne la connaissez pas, elle est très intéressante, elle est très pédagogue. C'était quand même une prof. Musique. La viole de gambe, on a déjà eu le théorbe. La viole de gambe, c'est l'ancêtre du violoncelle, hein, du XVIIIe siècle, avec beaucoup plus de cordes. Et donc Joël Ferreira, qui avait fait une conférence l'année dernière, ben, va venir joindre la viole de gambe ici. Voilà. Ferreira, il a été régisseur du conservatoire. Puis à la fin de sa il vient de prendre sa retraite, donc il dit maintenant je suis dispo, vous pouvez me solliciter, on le sollicite, et c'est un baroque, comme on dit dans la musique. Alors, Stéphane Varnet, finalement, dernière nouvelle de ce matin, il va faire qu'une seule conférence, parce qu'il est en déplacement, enfin, il a pris des activités, il est à Laval. Donc, vous voyez, j'en sais plus que vous. Il est à Laval pour un an, et donc il a des remplaçants, puisqu'il était directeur adjoint du conservatoire, et il nous fera une conférence sur un sujet qu'il nous dira en son temps. Mais voilà un revenant au bercail, Daniel Weissmann. Alors, est-ce que vous connaissez tous Daniel Weissmann ? Daniel Weissmann, quand il était à Chalon, il était responsable de l'association Mosaïque, qui faisait des concerts classiques, essentiellement conservatoires. Après, il est parti à Dijon, à l'auditorium de Dijon, et il a fait ses 10 dernières années comme directeur du Théâtre Royal de Liège. Méga poste, et il a fini par prendre sa retraite, et il revient à Chalon, évidemment. Je l'ai sollicité immédiatement, c'est un bon copain, il a dit tout de suite. Et qu'est-ce qu'il nous propose? Alors, tous mes collègues ont hurlé quand ils ont vu le titre, il a dit, mais vous ne pourrez pas faire un titre un peu plus court, ça ne tient pas dans la page du programme. C'est une phrase à rallonge. Et le message qu'il veut passer, c'est que faire de la musique, c'est bien, mais il faut manager aussi un orchestre, c'est-à-dire c'est un travail complet entre la partie artistique et la partie managériale. Et lui, il est très bon pour ça. En général, il y a les artistes d'un côté et les managers de l'autre, ils passent leur temps à se taper, à se tirer dessus. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'organismes culturels. Alors lui, il n'a pas de problème puisqu'il fait tout à la fois. Donc il n'est pas en conflit avec lui-même. Mais il va expliquer un petit peu comment s'y prendre pour manager un orchestre. Là, il est reparti, c'est son dernier déplacement, il part 3 semaines en Chine, où il tourne avec l'Orchestre Royal de Liège. Voilà Bruegel et Bosch, donc c'est Bruegel et Bosch, donc c'est Capellazzi, vous le connaissez tous. Donc maintenant il suffit d'appuyer sur le bouton pour avoir. Et pourquoi on a pris ça? Toujours un petit peu comme la Révolution, en regardant le tableau de tout ce qu'il nous avait fait, Bruegel, ça fait 20 ans, ça fait 20 ans qu'il vient, 15 ans qu'il vient, jamais. Bosch, on regarde, jamais. Bon, donc on bouche les trous. Alors maintenant, vous savez que Mathieu Pinette nous fait toujours 4 conférences, donc il avait déjà. Il y en avait déjà une, la Sainte-Chapelle. Donc, on lui met le mot clé, révolution. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez pour la révolution? Évidemment, un incontournable, David, la mort de Marat. Bon, enfin, ça va être le prétexte pour entrer dans l'œuvre de David. Regnault, la liberté ou la mort, voilà les tableaux. Et ensuite, suivez Cornélie, mère des Gracques. C'est quelque chose qui ressemble quand même un petit peu à l'école de David. Notre conférencier d'histoire de l'art, en histoire de l'art contemporaine, ça ne veut plus rien dire, 20e siècle, donc le mouvement Cobra, et surtout Anselme Kiefer, donc C'est un Allemand, comme son nom l'indique, qui s'est mélangé du pictural avec des installations dans les musées. J'ai pris cette image, c'est rigolo. Mais il est très bon parce que faire passer de l'art contemporain en conférence, je peux vous dire qu'il est bon. Alors, Françoise va nous faire, c'est un extra cette année, parce qu'elle nous propose de faire un voyage à Rome, donc au printemps prochain. Et il a dit, on a pris la liste. Alors, Caravage, Capellazzi l'avait fait, mais il y a des plombes, pour ne pas dire des lustres. Donc, on a un peu oublié. Donc, elle va nous faire une révision sur Caravage. Bon, ce tableau célébrissime, enfin, ils sont tous célèbres, hein, donc. Judith et Holoferne. Alors, Révolution. À nouveau, on en remet une couche et on utilise des graveurs célèbres. On en a déjà parlé dans d'autres conférences. Jacques Callot, ben ça, vous avez tous vu cette gravure, c'est la gravure de la guerre de 30 ans, hein, avec des pendaisons en série. Goya, ce sera les malheurs de la guerre, donc toutes les gravures qu'il a fait pendant la guerre d'Espagne contre Napoléon, et là c'est du costaud. Et pareil, Autodix, c'est tout ce qu'il a fait pendant la guerre de 14-18, où on avait eu une conférence spécialement sur Autodix, par François Vion-Delphin, qui malheureusement nous a quittés il y a 2 ou 3 ans. Et puis ensuite, les caricatures de la période révolutionnaire en France et à l'étranger. Parce qu'il y en a eu beaucoup en France, et celles-là, vous les connaissez tous. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que, en particulier, les Anglais ont fait pour se moquer de la Révolution française. Et là, le conférencier Frédéric Cousin me fait des appels du pied très fort pour dire « j'ai tellement de documentation, allez, vous me donnez 2 conférences parce que je ne vais pas y arriver en une seule ». Bon, je pense qu'on va s'arranger. Voilà. Et Claudie Roger, on a des problèmes relationnels un peu difficiles avec Claudie parce qu'elle elle change souvent d'avis. Et on a des problèmes de communication avec elle, puisqu'elle n'a aucune informatique, et elle répond que sur son portable quand elle répond. Donc finalement, on en est resté à 2 conférences sur les transitions entre, entre le figuratif et l'abstrait, si vous voulez. On reprend la Révolution. Maintenant, le cinéma, quelle est la filmographie des films sur la Révolution? Et là, on n'est pas en manque, on a plutôt que trop que pas assez. Du navet parfait, et il y en a beaucoup, sur des films qui sont de bonne qualité. Elle aussi, Véronique Assadas, maintenant elle habite dans Lyon, elle était également en retraite, et elle a dit, il n'y a que pour vous que je vous fais des conférences, parce que j'ai tout arrêté à Dijon. Et donc depuis 2 ans, on a mis en piste les gens du musée Niepce. Parce que j'avais constaté il y a quelques années là qu'on n'avait jamais vraiment travaillé avec le musée Niepce. Donc Sylvain Besson, qui est le directeur des collections, nous a déjà fait une très bonne conférence et c'est lui qui nous propose ce thème-là, quelqu'un dont j'ai jamais entendu parler, vous non plus, donc c'est pour ça qu'il faut venir écouter la conférence. C'est un gars qui fait de la photo un peu comme Doineau, si vous voulez, et qui fait des photos dans la rue et qui est considéré. Et donc surtout, ils ont le fond au musée Niepce, parce que sachez que le musée Niepce a une collection absolument fantastique de fonds, parce que les artistes, quand ils arrêtent ou ils disparaissent, dans les héritages, souvent, ils font un leg au musée Niepce de leur négatif, de leur tirage, etc. etc. Alors là, ce n'est pas la Révolution. Émile Gallet, ça c'est de l'art nouveau. Donc vous connaissez tous ce type de verrerie. Et là, c'est l'école de Nancy. Je ne sais pas si vous avez déjà visité Nancy. Et donc on a fait un voyage à Nancy il y a 5 ou 6 ans. Là, on avait visité, il y a une maison qui présente tous ces objets-là. Donc je crois d'ailleurs qu'elle est, cette dame, elle est associée à cette maison. C'est une nouvelle. Est-ce que vous connaissez Paul Landowski? Et vous devriez le connaître, c'est le Rodin de la première moitié du XXe siècle. Il a travaillé sans arrêt. Alors, si vous le connaissez forcément, parce qu'il a fait une sculpture célébrissime, c'est le Corcovado de Rio de Janeiro, le Christ. Ah, il ne l'a pas faite, il a fait une maquette. Lui, il n'y est même pas, il n'y est jamais allé. Et donc, il a bossé sans arrêt, puisque, comme tous les artistes, il dépensait plus d'argent, parce que plus d'argent qu'il n'en gagnait. Hein. Et je rappelle, en particulier pour la sculpture, on n'est plus dans des projets comme on faisait du temps de Denon. C'est à l'artiste d'avancer les frais, et quand vous faites de la sculpture, il faut acheter les blocs et tout, et vous êtes payé une fois que la sculpture est terminée. Donc il y a un problème de, on dirait aujourd'hui, managérial, de trésorerie. Alors ces gars-là y arrivaient parce qu'ils avaient un nombre de commandes suffisant pour avoir un matelas sur lequel s'asseoir, mais la condition sine qua non, c'était de ne jamais arrêter de travailler. Sinon, s'il y avait un petit trou, eh bien, c'était la cata. Alors, il se trouve, j'ai fait la connaissance de... J'ai écouté une conférence d'une dame, là, qui est sa petite-fille, au Creusot. Puis finalement, après discussion, elle n'a pas souhaité revenir ici, parce qu'elle a fait toutes les statues des Schneider du XXe siècle. C'est lui qui les a faites. Tous les bustes qui sont au Creusot, les statues qui sont sur la place Schneider, c'est lui qui les a faites. Et donc il y avait une relation avec le Creusot, mais elle nous a parlé de toute son œuvre. Et il y a un musée à Boulogne-Billancourt où il y a toutes ses œuvres, et c'est assez intéressant. Et donc ce sera la conservatrice de ce musée qui vient nous faire la conférence. Bon, on attaque l'histoire. Et l'histoire, on adore l'histoire, j'adore l'histoire, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de conférences d'histoire, mais je sais que notre public l'aime bien. Et donc, voilà. On y va. Alors, vous connaissez peut-être, vous avez entendu parler de Harald Floss. Ça vous dit quelque chose? Harald Floss, c'est le gars de Tübingen qui fait des recherches depuis 30 ans. Dans la région, et en particulier qui a découvert les grottes ornées à Ruyi, puisqu'on avait toujours dit en Saône-et-Loire, il n'y a pas de grottes ornées. Ben si, il les a trouvées, et donc les travaux actuels, c'est les grottes, oh, je ne sais plus comment elles s'appellent, là, à Ruyi, dans la falaise. Allez, oui. Bon. Joker. Oui, mais ça ne se visite pas. Faut aller. Ils sont dedans. Là. Il m'invite. Alors, il m'a dit, ben, j'ai pas le temps, je suis débordé et tout. Donc, il m'a mis dans les pattes de son adjoint, qui s'appelle Klaus Erkert, et qui travaille aussi à Tübingen. Vous savez où est Tübingen, après la forêt noire. Voilà, quand vous allez Fribourg, Tübingen. Ulm, Nuremberg, voilà, à l'horizontale. Alors, notre ami, on est beaucoup allé à Bibrac toutes ces dernières années, alors on a un peu épuisé le sujet, donc Vincent Guichard a dit, cette année, d'accord, je reviens, et je vous fais une conférence sur l'exemple de la crise européenne de la fin du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Donc il y a eu déjà une catastrophe écologique entre, on va dire, moins 200 et moins 100. Et maintenant, on a la preuve à travers tous les travaux archéologiques, pas seulement à Bibracte, mais en particulier à Bibracte, qui ont été sortis, en particulier des déboisements massifs. Parce qu'aujourd'hui, on connaît Bibracte, c'est qu'une forêt. Du temps des Éduins, c'était un caillou, pur et dur. Voilà. Et donc, il va nous expliquer tout ça, c'est toujours intéressant. Alors, Alena Vasek. Vous connaissez Alena Vasek, qui vient déjà depuis plusieurs années. Sa spécialité, c'est un petit peu les ducs de Bourgogne, enfin tout ce qui tourne autour. Elle est guide conférencière à Châteauneuf en Auxois, hein, et elle est sympa. Tous nos conférenciers sont très sympas, hein, je dis comme ça en passant. Et donc elle nous propose d'aller à Citeaux pour parler de Saint-Bernard. Voilà. Et donc, comme toujours, ben, les Clunisiens s'étaient un peu endormis dans leur, dans leur opulence économique. Et donc, quand c'est comme ça, ben, y a toujours des intégristes qui arrivent et qui disent on va serrer un peu les boulons et on va devenir beaucoup plus austère. C'est la démarche classique. C'est très équivalent à ce qui s'est passé avec le protestantisme, si vous voulez. Et si on va à Citeaux, je pense qu'on ira à Citeaux, on dégustera le magnifique fromage de Citeaux fait par les moines. Je peux vous dire, j'ai une expérience émue de ce passage à Citeaux. Donc, mais il faut y aller, il faut aller là-bas parce qu'on ne le trouve nulle part ailleurs qu'à Citeaux. Donc, voilà. Puis accessoirement, on vous parlera de Buonaparte, qui a fait un petit passage au printemps 1789 à côté de Citeaux. Il y a une petite plaque sur l'entrée, sur le chemin qui va à l'abbaye de Citeaux, que le Buonaparte. Il est venu réprimer une révolte des gueux qui attaquaient les salines, les greniers à sel. Voilà. Et puis, il y a des petites histoires à côté. Mais je vous en reparlerai. Alors là, c'est la question de cours quand même. Les causes de la Révolution française. Et comme toujours, ben, il n'y en a pas une. Il y en a des dizaines qui se sont toutes emmêlées les unes les autres. Et ce n'est pas inutile de les rappeler et surtout de les balancer les unes par rapport aux autres. Et puis, en cherchant des sujets un petit peu transversaux sur la Révolution, je lui ai demandé de dire ben, qu'est-ce qui reste de la Révolution dans le droit actuel français. Alors, la Révolution, j'inclus au moins le consulat, sinon l'Empire, puisqu'on dit que Napoléon, finalement, a fini la Révolution, mais a gardé quand même un certain nombre de changements fondamentaux dans qui avaient été apportés par la Révolution de l'an 1, de l'an 3, etc. Un sujet qu'on traite très peu souvent, la gestion économique de la Révolution. Et le souvenir affreux des assignats. Puisque donc c'est compliqué. Et on va dire Napoléon a fini la Révolution, mais il l'a également sauvée. Pas du tout, parce que c'était un bon gestionnaire. Il connaissait absolument rien à l'économie, il n'y comprenait rien. Mais il a su trouver des gens qui savaient. Je rappelle que c'est lui qui a fondé la Banque de France et qui est une banque privée en 1800, sous le consulat. Et surtout, comme on a renfloué les caisses, eh bien, c'est grâce au pillage de Napoléon, de Bonaparte d'abord en Italie et de Napoléon pendant toute cette campagne. On a littéralement pillé l'Europe entière. Et on a tout mis ça dans les poches de l'État français. Donc en 1815, je peux vous dire que les alliés, les coalisés, ils l'avaient un peu là. Donc ils se sont un petit peu vengés. Voilà. Donc on va nous raconter tout ça, et c'est Pierre Alliot qui va nous parler de ça. Alors, notre ami Bruno Benoît, une de nos vedettes, je rappelle, enfin, Bruno Benoît, c'est un ancien professeur au Sciences Po Lyon, et qui avait la particularité, j'ai des témoignages, que c'est le seul prof dont les cours n'étaient séchés par aucun étudiant, ce qui est quand même exceptionnel à l'Institut d'études politiques. Voilà. Donc, et on l'expérimente depuis 10 ans, c'est un batteur d'estrade absolument extraordinaire. Donc, il va nous faire l'histoire du Concordat et Constitution civile au Concordat, mais surtout, bien essayer de lister toutes les oppositions qui se sont manifestées contre la Révolution, puisqu'on a un peu tendance à oublier. Évidemment, j'ai mis l'image des Chouans, hein, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu beaucoup d'autres, on va dire, segments de la société qui se sont opposés aux évolutions de la Révolution. Alors là, nous avons obtenu, grâce à nos adhérents, dont le fils est directeur de cette institution, l'école des officiers de la gendarmerie à Melun, Laurent Bitouzet, donc, qui viendra nous faire une conférence sur la gendarmerie, d'où ça sort, quand est-ce que ça a commencé, quelle est l'évolution de tout ça, et puis qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui là, dans la gendarmerie. Et donc on a prévu un voyage, une sortie jusqu'à Melun, c'est à portée de fusil, donc pour visiter le musée et les installations. Philosophie de la famille sous la Révolution. Ça veut dire quoi? C'est quels sont les droits de la philosophie de la famille? Ben, les droits du mariage, bien sûr, mais également les droits vis-à-vis des enfants, les règles d'héritage, les choses comme ça. Et il y a tout un appareil judiciaire qui est apparu à ce moment-là. Et c'est moi qui l'ai demandé à Jean-Pierre Dailloux. Jean-Pierre Dailloux, c'est un de nos adhérents. Il a fait toute sa carrière dans le notariat, puisqu'il était le fils de son père, voilà, qui était notaire, bien sûr. Et surtout, il a passé sa thèse de doctorat en droit à 70 ans. On y était, tous les deux, à Lyon, à la fac de Lyon, avec un brillant succès. Et c'est le thème qu'il a dit. Et je ne sais pas si vous avez l'occasion d'assister à des thèses de doctorat. C'est souvent très pénible parce que les examinateurs sont absolument exécrables vis-à-vis des impétrants. Hein. Donc ils les harcèlent d'une façon pas possible. Lui, il est resté très calme. Et le président du jury, à la fin, a dit « Écoutez, monsieur Dailloux, il faut que je vous dise quelque chose. Vous écrivez très bien. Si vous voyez les thèses que je lis tous les jours de mes jeunes doctorants, vous tomberiez à la renverse. » Parce que les thèses, ça fait 1200 pages. Hein. 1200 pages. Je dois avouer que j'avais prévu simplement de la feuilleter comme ça avant de présider le jury. Il a dit, j'ai lu quelques pages. Ben, je dois vous avouer quelque chose. J'y ai passé 3 nuits. J'ai lu les 1200 pages. Donc le compliment valait le coup. Voilà. Voilà, je vous en fais une, au moins. Alors, pourquoi je vous parle de Lazare Carnot? On a fait, en 2015, un ouvrage collectif dans le groupe Patrimoine écrit de Bourgogne. Et parce qu'on cherchait des vedettes, on va dire, dans l'histoire de la Bourgogne, qui puisse servir de support. Alors, on avait un peu épuisé la veine qu'est-ce qu'on peut mettre. Et finalement, je lance comme ça la cantonade, je ne fais pas partie du groupe. Hein. Mais tiens, on pourrait parler de Lazare Carnot. Ah, tout le monde me regarde avec un air ahuri. Ah, Lazare Carnot, oui, bah ouais. Ah oui, c'est un politicien sous la Révolution. Et finalement, ben, on a fait le bouquin. On l'a vendu. Et puis, on vient de sortir une deuxième édition parce que le 16 septembre 2023, c'est-à-dire dans 11 jours, il y a des manifestations à Nolay, puisqu'il est natif de Nolay, comme vous devez le savoir. Il y a sa belle statue qui est devant sa maison natale, là, et qui célèbre le 200e anniversaire de sa mort à Magdebourg. Et comme on avait fait ce bouquin, les gens de Nolay le savaient, et ils m'ont dit « Vous ne pouvez pas venir faire la conférence inaugurale, je n'ai pas pu refuser. Donc le 16, je vais faire la conférence à Nolay. » Donc une fois que c'est fait, c'est dans le PC, donc je vais vous faire une deuxième édition ici. Et la deuxième édition, on a changé un petit peu le bouquin parce que on avait zappé l'aspect militaire de Lazare Carnot, qui était quand même son job au comité de salut public, parce qu'on était incompétents dans le domaine militaire. Par contre, on a appris en parallèle que des militaires allaient faire un pavé sur l'action militaire de Lazare Carnot. Alors, on les a suppliés et ils nous ont craché 20 pages, qui est un extrait de leur monographie, si vous voulez. Et on l'a inséré dans notre bouquin et on va le mettre en vente à partir du 16. Alors, la presse en France sous la Révolution. Alors là, c'est un sujet en or. Du père Duchesne jusqu'à la censure sous le Consulat et l'Empire. Donc, on va se régaler. Donc là, j'ai pris l'ami du peuple. Bon, c'était des feuilles de choux qui duraient 6 mois, hein, pas plus. Napoléon vu par les Arabes. Alors, monsieur Ahmed Youssef, que j'ai rencontré, qui est un historien, hein, qui est à moitié égyptien, il est égyptien de naissance, hein, mais il est de culture française, il parle très bien le français. Et alors, monsieur Djebar nous en avait un petit peu parlé il y a quelques années, en disant, Bonaparte, c'est un peu un extraterrestre pour les Égyptiens quand ils sont arrivés dans la campagne d'Égypte. Et en particulier, il a fait des grosses bêtises. C'est celle qui est montrée dans ce tableau. Cet animal, c'est le cas de le dire, il est rentré à cheval dans la mosquée. Donc ça, c'était pas très habile. Alors qu'il avait dit qu'il voulait se convertir à l'islam pour se faire bien voir des populations. Enfin, tout ça, ça n'a pas bien marché. Il y a eu des révoltes, Kléber a été assassiné, puis ça s'est terminé dans un bain de sang, comme vous le savez. Donc, on va parler de ça. Encore un Chalonnais. Donc, une fois de plus, on dit, Nice et Forniebs, alors je regarde dans la liste de nos conférences, c'est bizarre, on n'en a jamais parlé. Oh, c'est pas possible, ça. Hein. Alors, en fait, celui qui va faire la conférence, c'est Emmanuel Bonnet, c'est un descendant direct de Nicéphore, c'est la 7e génération. Un Parisien. Hein. Mais il n'a pas fait la photo, lui, il est comédien. Mais il a un fils qui est rentré à Polytechnique. Et devinez comment il l'a prénommé, Nicéphore. Ah, Nicéphore Bonnet, c'est pas facile à porter. Hein. Bon, il va venir et raconter l'histoire, puisque quand vous cherchez sur Internet, il n'y a pas l'histoire officielle de la biographie de Nicéphore Niépce. C'est éclaté dans des centaines de sites. Et il y a beaucoup de conneries qui sont racontées. Et lui, il a tous les, il a fait les études sur les, la documentation, sur ses papiers, sur ses, son, sa correspondance. Monsieur Clemenceau, vous savez qu'il nous fait beaucoup de conférences autour de, des choses religion et société. Hein. Et il a dit, ah, j'ai envie de faire ça, parce que c'était, c'était ma maîtrise d'histoire, ça. Il y a un certain nombre de décennies. Alors, laissez-moi faire, faire ça. Et ça, vous avez tous entendu parler de cette encyclique. Rerum Novarum. Ça veut dire, c'est une encyclique qui, la fin du 19e siècle, qui dit l'Église doit se, s'inquiéter de l'aspect social de la société. C'était la, le pic de la révolution industrielle. Et donc, voilà. Et donc, il va expliquer la genèse et le, de, ce, de cette encyclique. Voilà notre ami Philippe Comte qui nous avait fait un tabac là, au mois d'avril dernier. Et donc, il va plutôt refaire la chose, mais surtout sous l'aspect historique. Geneviève Guérin, notre historienne, va parler de la partie chinoise. Alors on a fait, là, on est très bon sur la Chine, on a fait presque toutes les périodes, mais là, il y a encore un trou dans, le, dans la raquette, c'est la période de 1912 à 1949. Donc, elle va nous raconter tout ça. Je vous rappelle, là, je suis en conférence. Pierre Saudi, le monsieur qui nous a fait les grands généraux, les hommes de guerre du XXe siècle. Alors, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, il a pris Che Guevara. Et pour en dire beaucoup de mal, bien sûr. Mais il a fait quasiment une thèse de doctorat sur ce bonhomme. Contrairement à l'idée qu'on s'en fait, alors c'était un homme de... un meurtrier en série, on va dire, mais surtout, c'était un intellectuel, un gars qui avait un niveau culturel extrêmement élevé. Donc, il n'y a pas de corrélation entre le, l'éthique individuelle et le niveau culturel. Notre ami lyonnais va nous parler des chemins de fer au 19e. Et évidemment, on ne pouvait pas échapper aux Jeux olympiques. Donc Monique Roux nous a proposé de nous parler des Jeux, de l'histoire des Jeux Olympiques. Ah, vous connaissez tous ce beau moustachu, Pierre de Coubertin, bien évidemment. On aura la conférence sur l'histoire de l'hôpital, comme d'habitude, avec Abigail Mathieu. Et une conférence originale, puisqu'il y a eu beaucoup de recherches archéologiques au moment de la, du relookage de l'évêché. Donc la, l'archéologue qui a travaillé sur cette bâtisse là va nous exposer les trouvailles qu'elle a, qu'elle a faites. Curnier Laroche donc débute toujours traditionnellement notre nos cycles de nos conférences. On en aura eu au mois de septembre, mais c'est un cas particulier. Donc début octobre, il va nous parler de la lecture de la Bible avec les trouvailles de l'archéologie moderne, puisque vous avez depuis la création d'Israël, c'est la première fois depuis la, les, la période biblique où il y a eu des recherches archéologiques dans la zone, si vous voulez, de la Palestine étendue. Avant, il n'y en avait pas, on ne faisait pas d'archéologie. Ah, Geneviève Guérin tenait beaucoup ça, puisqu'elle a fait une partie de sa carrière en, dans la, en Tunisie, et donc elle est très attachée à l'Afrique du Nord, et donc elle a souhaité parler des civilisations du Sahel, enfin pas du Sahel, du Ouaghar plus exactement, où il y a également des dessins pariétaux sur les falaises, là, comme vous le voyez. Alors, Geneviève, alors Géraldine Guérin, c'est la petite dame que l'on voit en visioconférence, qui est à Lorient, qui est charmante, donc on l'a vue en chair et en os, voilà, puisqu'on a fait le voyage à Lorient. On a visité le musée de la Compagnie des Indes, et je vous confirme, comme dit le guide Michelin, vaut le voyage, c'est génial. On a un livre qu'on a acheté, un gros pavé, qui sera à la bibliothèque, donc si vous voulez l'emprunter, on le mettra à disposition. Et on avait tout fait en visio parce que Lorient-Chalon, c'est quand même un peu loin, hein, et surtout ça coûte. Hein. Et, mais on avait compris qu'elle avait envie de venir quand même. Donc on a trouvé un moyen terme. Donc la première, elle va nous faire l'histoire du thé, comme d'habitude en visio, mais elle va venir pour dire comment le cheval a influencé l'évolution humaine. Et ça, c'est aussi un sujet en or. Et comme elle est très bonne conférencière, je ne doute pas que ce soit passionnant. Alors, Dominique Jurzac va nous parler du sucre. Donc de la... Je rappelle quand même, le sucre, c'est le premier moteur de l'esclavagisme dans le commerce triangulaire. Avec le tabac, le coton n'est venu que dans une deuxième phase. Mais le coton, ça fait le gros volume parce qu'il y avait besoin vraiment de beaucoup de monde. Mais le début de l'esclavage vient vraiment de la période du sucre, c'est plutôt 16e, 17e. Et il y a une dame qui est dans le public qui s'appelle Marie-Zige Michelin. Elle est là, hein. Elle se cache. Et qui nous a fait, donc qui participe à des groupes de travail, donc c'est économie et géopolitique, c'est là que vous l'aviez fait. Mais, non, dans éthique et société, enfin bon, c'est deux groupes voisins. Et donc elle avait fait un exposé plus ramassé, et je lui ai demandé de le dilater pour le faire dans le format des conférences. Et vous verrez, c'est une très bonne conférencière. Donc, j'en doute absolument pas. Et donc, c'était passionnant. Et d'élargir un petit peu l'aspect un peu étroit de ce qu'on peut lire dans la presse du matin jusqu'au soir. La littérature. Les prix Nobel de littérature. Alors, je vous ai mis les deux extrêmes. Hein. Donc, Sophie Arnaud, là. Et puis celui-là, c'est Sully Prudhomme. Alors, quand on. Le premier prix Nobel, ben, les gens étaient très embarrassés parce qu'ils ne savaient pas à qui le donner. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de vedette qui émergeait du lot. Alors, on a pris Sully Prudhomme par défaut. Puis après, on a dit bon, c'était pas terrible, mais enfin, il en fallait bien un. Puisque Monsieur Nobel, Alfred Nobel, adorait les sciences, mais également la littérature, et il était militant, entre guillemets, pour la paix, puisqu'il a fait un prix Nobel de la paix, et parce qu'il était copain avec une dame qui a eu après le prix Nobel de la paix, qui était, elle, une vraie militante de la paix. La Révolution. Alors, Olympe de Gouges, alors ça c'est. Bon, ça ne se discute pas. Donc, Madame Caetano, qui est également une bonne conférencière de littérature. Puis là, j'ai pris La Révolution comme sujet littéraire. Et là, j'ai pris un exemple. Regardez l'auteur de cet ouvrage. Il s'appelle Jean-Paul Dayou. Celui dont j'ai parlé, là, qui a fait la thèse sur la politique familiale sous la Révolution. Il a même fait un roman, un roman qui est une dystopie, et qui imagine que, en fait, Robespierre n'a pas été guillotiné. Il y a eu une substitution à la dernière seconde, et après il s'est caché jusqu'à sa mort. Donc là, c'est un sujet en or pour faire un roman. Et il l'a fait, et c'est très bien fait. C'est le seul roman qu'il ait rédigé. Donc, on va avoir une deuxième couche de Proust, puisque je rappelle qu'on a déjà une conférence par notre ami Daniel Clauss, qui est actuellement le président des Amis du Musée de Nantes, hein, mais qui a été très longtemps conférencier de littérature à l'UTB. L'histoire de l'érotisme, j'en ai parlé. Donc, disons, qui est chronologique, antiquité, la répression, la renaissance de la sexualité, l'époque contemporaine et ses contradictions. Un couple de poètes dont j'avais jamais entendu parler, il est mort à 39 ans, c'est des poètes bretons, mais notre amie Catherine Weissmann est une fanatique de ces poètes, donc j'espère qu'elle arrivera à vous faire passer sa passion. Notre conférencière de théâtre va nous parler de Marivaux, bien sûr, et de Peter Brook. Peter Brook, c'est une victime du Covid, parce qu'il est dans la programmation depuis 2019, 2020, 2021, 2022. Ah, enfin, en 2023, on va faire Peter Brook. Ouf. Et révolution et théâtre, on ne peut pas échapper aux deux... on dit aujourd'hui blockbuster de notre ami Marivaux. Hein, donc, oui, il y a les opéras, mais au premier degré, il y a la pièce de théâtre. Il y a la pièce de théâtre. Et donc, qui était très moqueuse, on va dire. Bon, je ne veux pas faire la conférence. Donc... et les opéras qui y suivent derrière, mais enfin les opéras, c'est des opéras qui ont été faits en 1814-1815, donc Rossini, donc c'est vraiment 20 ans après, quoi, même 30 ans après, hein, puisque c'est avant la Révolution, ces deux pièces. Georges Sand et Delacroix, bon, elle a beaucoup consommé Georges Sand, voilà, donc c'est un de ceux, voilà. Alors, un thème en géopolitique qui est intéressant, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le conférencier qui nous a proposé, M. Lécuyer, guerre et environnement. On oublie un petit peu le fait qu'avec tout ce qu'on casse et tout ce qu'on met, tous les bateaux qu'on coule et toutes les mines que l'on met partout, c'est très difficile de s'en débarrasser. Et donc, il y a des études qui sont faites sur sur la période 20e siècle, en disant, mais finalement, tous ces conflits, quel impact ça a eu sur l'environnement ? Très important, bien évidemment. Et puis, les femmes et la guerre, bon, là, l'image est incontournable, puisque c'est pendant la guerre 14-18, c'est les femmes qui ont fait les obus, qui tuaient leurs hommes. L'intelligence artificielle, alors là, j'en remets une couche avec les magazines. Donc, vous savez que M. Nicole, qui est professeur à Dijon, était déjà venu nous faire des conférences très bien, d'ailleurs, mais il y a 3 ou 4 ans déjà. Et là, ça remonte un petit peu en puissance, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des choses qui sortent et qui sont accessibles au grand public, et donc qui sont passionnantes, mais qui font très peur aussi. Donc, il va venir faire une conférence pour nous parler de ça, mais surtout, il va rester après, il va au groupe... économie et géopolitique. Donc il fait une deuxième mi-temps. Voilà. Mais pour des privilégiés que nous sommes. Alors, Michel va nous faire Nietzsche. La dame qui réclamait Nietzsche depuis des années et des années, je ne sais pas, elle n'est pas venue et puis j'ai pas de nouvelles. Là, je ne sais pas si elle mais je sais pas si elle s'est réinscrite ou je sais qu'elle avait des problèmes de santé. Donc, bon, voilà. Il y a une adhérente qui nous demandait d'une façon récurrente d'avoir une conférence sur Nietzsche. Alors, voilà, on y arrive. Big moustache, hein, voilà. Et voilà, une conférence de philosophie. Alors, j'ai trouvé une photo qui est sympa, là, parce que une approche philosophique des révolutions sociétales que nous vivons. Vous avez compris. La photo est explicite, voilà. Donc ça, c'est vraiment un séisme, un tsunami dans nos modes de vie, nos modes de pensée. Et on a beaucoup de mal à le comprendre et tout. On a tous des enfants et des petits-enfants, enfin tous, beaucoup ont des enfants et des petits-enfants. Les miens, ils sont comme tout ça. Voilà, les écrans. Alors, comme on a été bien servi par des émeutes, là, encore cette année, donc on a dit, oh, bah, on va en mettre une petite couche. Et donc, on a demandé à Hélène Tourard de nous raconter ce fameux droit manifesté, qu'on brandit comme une pancarte en permanence, qui existe dans la Constitution française, comment ça existe dans l'ensemble de l'Union européenne. Est-ce que les autres pays se placent de la même façon que le droit français? Et puis là, on va retomber un petit peu sur la basse intendance. J'ai demandé à Pascal Mauny, là. Pascal Mauny, c'est l'ancien directeur de l'IUT, mais il est toujours enseignant à l'IUT. Sa spécialité, c'est la logistique. Vous savez ce que c'est que la logistique? C'est les transports entre les lieux de production et la distribution, les grandes surfaces. Et donc, comment tout ça, ça marche? Tout le monde sent bien que c'est compliqué et qu'il y a des camions partout, beaucoup trop, mais s'il n'y en avait pas, ben on n'aurait rien à manger, hein, ça c'est aussi simple que ça. Donc, essayez de comprendre comment tout ça, ça marche. Et ce sera intéressant. Puis après, on va enchaîner sur un truc dont on parle tout le temps dans les télés, mais on ne dit jamais comment ça se passe. C'est les fameuses négociations commerciales entre les représentants de l'industrie et les représentants de la grande distribution. Alors là, c'est sympa, j'ai mis un truc où les gens se serrent la main. Mais c'est moins convivial que ça d'habitude, d'après ce qu'on m'a dit. Et là, il a sollicité un prof de Dijon, là, qui est spécialiste de ces sujets-là, qui va nous exposer cet aspect-là de la grande distribution. Et en paquet cadeau, si ça vous intéresse, on ira visiter un centre logistique dans la région. Ça peut être spectaculaire. Yann Richard, qui est venu il y a quelques années, qui est le spécialiste de l'Iran, qui va nous répéter un petit peu quelle est l'origine de l'hostilité géopolitique entre ces deux pays. Et donc je rappelle que le nœud s'est fait au moment de Carter, donc 1979, au moment de la révolution de Khomeini, et la prise d'otage à l'ambassade américaine de Téhéran. Je rappelle qu'à cette époque-là, Yann Richard, il était à Téhéran. Il était obligé de partir parce que quand la révolution est arrivée, il était persona non grata. Il a dit, je sais faire qu'une chose, parler le persan, il enseigna. Donc je vous rassure tout de suite, il ne fera pas la conférence en persan. Voilà. Alors là, on aura le volet militaire par l'amiral Koldefi qui vient nous voir régulièrement. On a du mal parce qu'il faut le prendre au vol quand il a un trou dans son agenda. Donc on est obligé de déplacer d'autres conférences pour lui trouver un créneau. Oui, alors Monique Roux, en dehors de... Parce que cette année, j'ai été très gentil, je ne lui ai pas imposé de sujet. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous nous proposez? Donc elle nous a proposé l'Amazonie, c'était intéressant. Pas l'Amazonie, les Jeux Olympiques, ben oui, très bien. Et alors quoi? L'Amazonie. Ah bon? Ben oui, pourquoi pas. Et donc, en regardant un peu dans le détail, en fait, ce sera d'abord une conférence d'histoire. Vous connaissez ce monsieur-là? s'appelle Simon Bolivar. Simon Bolivar qui a tenté d'unifier les anciennes colonies espagnoles. Il n'y est pas arrivé, ça s'est mal passé, pour faire court. Et un lointain, il n'est pas apparenté, puisque là vous le reconnaissez, c'est le Brésilien, celui-là. Je rappelle que tous les pays d'Amérique du Sud sont dans l'influence espagnole, sauf le Brésil, qui était sous l'influence portugaise. C'est le fameux traité de Torremolinos, c'est comme ça s'appelle. Hein, Michel ? Oui, mais enfin, les BRICS, c'est autre chose. Enfin, on va parler de l'Amazonie. Voilà, bon. Et là, alors, j'ai remis Alain Coldefy parce qu'il m'a promis qu'il me trouverait quelqu'un pour nous parler de Wagner. Alors, on ne m'avait pas téléphoné pour les coups d'État. Là. Il y en a un tous les mois, là, au Niger, machin. Mais là, je ne peux pas trouver un meilleur terrain d'actualité que ça et le groupe Wagner. Donc, et vous voyez, bon, la propagande marche bien et les gens se baladent avec un drapeau russe dans les rues. Donc, on aura quelqu'un qui connaît bien ce sujet, mais ça, c'est pas. Il n'y a que Alain Coldefy qui peut me le trouver. Alors maintenant, on termine par le sciences et techniques. Et là, alors, on avait déjà mis ça au programme l'année dernière, et puis la personne qui devait le faire, bon, s'est désisté. Et donc, cette année, ce sera Lionel Cavin, c'est le directeur du Muséum d'histoire naturelle de Genève. Hein. Alors, c'est quoi ça ? Ben, c'est-à-dire, on sait maintenant qu'on peut remonter à plus d'un million d'années, on sait trouver de l'ADN qui a plus d'un million d'années, et donc retracer ce qu'on appelle les arbres phylogéniques, c'est-à-dire toute l'arbre généalogique finalement des espèces. Alors, je rappelle que Thierry Malvézy, donc, qui était avant à Montbéliard et maintenant il est directeur du muséum, mais à Neuchâtel, en Suisse, et il avait fait une première conférence un peu sur l'évolution humaine. Et là, on va rentrer dans la deuxième partie, Lucie à Cro-Magnon. Donc, notre astronome de service qui va nous reparler du mouvement des planètes, donc on retourne un petit peu aux sources, et puis avec un aspect, historique, pour dire, ben évidemment, un certain du temps du paléolithique, qui avait les yeux pour observer. Donc, sans instrument, on avait bien vu la répétitivité des mouvements et tout, on avait bien vu qu'il y avait des choses bizarres qui étaient les planètes qui se déplaçaient déjà et qui avaient des mouvements bizarres. Voilà les atlas du ciel, voilà. Et retour d'un conférencier qu'on aime bien, mais qui avait un peu lâché les manettes parce qu'il est prof, il est enseignant à Hilaire de Chardonnay, enseignant de SVT en lycée, et il y a eu des changements de programme tous les ans, donc il était noyé, donc il a dit cette année, je veux bien revenir, là ça y est, je souffle, et donc il va nous faire un truc sur l'exploration de Mars. Et un autre truc, on va le voir un petit peu plus loin. Bourque va nous faire l'adaptation de la vigne aux conditions actuelles climatiques. Alors, donc l'aspect, pas l'aspect culturel, mais l'aspect cultural, mais l'aspect génétique, hein. Sélection des plants, etc. Et M. Lecointre, qui avait fait deux conférences sur l'évolution, a dit, ben, l'évolution, je vous ai un peu saturé avec ça, je vais changer un peu de thème, va dire pourquoi notre attirance vis-à-vis des espèces domestiques est directement inversement proportionnelle à la distance dans l'arbre phylogénique, c'est-à-dire les singes bon, et les chiens et les chats. Bon, hein, puis après, les vers de terre et tout, on n'a pas un amour particulier pour les vers de terre. Donc il y a eu des études, on va dire, un petit peu psychologiques, qui essayent d'expliquer pourquoi il y a des animaux où on a une certaine empathie, une certaine attirance, et d'autres, on n'en a pas. Voilà, la deuxième conférence de Schultz. Bon, ben ça, c'est les paléoclimats. Donc c'est un des éléments des rapports du GIEC pour dire, ben, quand on compare non pas la température du jour par rapport à celui de la semaine dernière, mais la température d'il y a quelques dizaines de milliers d'années, alors là, on a mis un graphique qui est la, on va dire le petit âge de 1880 et là 2000, bon, vous voyez que ça chauffe. Et si on mettait encore 2020, là, ben, ça chauffe encore plus. Mais surtout, il va expliquer comment on arrive à faire ça. Voilà. Et alors là, notre ami Jean-Marie Vigoureux va peut-être revenir, parce que vous avez remarqué la dernière fois où il est venu, il a de plus en plus de mal à marcher. Et donc, il a dit, si je suis en état, je viens, pas de problème, mais c'est pas gagné. Donc il vient traditionnellement au mois d'avril, et il va nous parler, ça c'est moi qui lui ai demandé, parce qu'il a fait un bouquin sur le sujet, les propriétés de l'eau. Alors, l'eau, c'est une molécule qui n'a aucun autre équivalent dans tout l'arsenal chimique. C'est un truc bizarre, l'eau. Les glaçons flottent sur l'eau, la densité a une courbe particulière. L'eau, je n'ai pas mis le graphique là, il y a les deux atomes d'hydrogène, ils sont à 104 degrés. Comment donc on a fait pour mesurer cet angle-là ? C'est avec des calculs. Et puis surtout, ça fait des cristaux de neige, ça fait des étoiles. C'est quand même bizarre ça. Pourquoi ça fait des étoiles ? Eh bien, il vous expliquera, c'est grâce au pont hydrogène et machin comme ça. Donc, il vous montrera des graphiques de ce genre-là. Ça, c'est de l'eau avec des ponts hydrogène. Les bactériophages. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça ? Alors, les bactériophages, ce sont des virus qui attaquent les bactéries. Et ça, ça a été découvert dans l'entre-deux-guerres. En France, on a une culture pastorienne. C'est-à-dire, ça a été découvert en même temps que les antibiotiques, c'est-à-dire les sulfamides et la pénicilline. Très vite, on a vu que les antibiotiques, c'était très efficace au départ, et donc on a un peu oublié les bactériophages. Par contre, dans les pays communistes, en Union soviétique, ils n'avaient pas les moyens de production pour faire en masse des antibiotiques, et ils ont continué à utiliser les bactériophages. C'est-à-dire on vous injecte des virus qui s'attaquent spécifiquement à des bactéries. Et c'est grâce à ces bêtes à corps, ça ressemble à ça. Ça ressemble à une espèce de... Vous voyez, avec des pattes, là, ça se plante dans la... C'est une image, hein, ça se plante dans la bactérie, puis là, c'est l'ADN du bactériophage qui s'enfile, machin. Et tous les essais, toutes les technologies de l'ADN messager et tout, elles sont des filles ou des petites filles ou des arrière-petites filles des recherches qui ont été faites sur ça. Et par exemple, je vous ai fait la conférence sur l'ADN, Watson qui a été le co-découvreur de machin, avant, quand il était aux États-Unis, il a fait son doctorat sur les bactériophages, les phages, comme on dit dans le milieu. Donc, ces petites bestioles. Et donc, c'est notre ami Neyers qui est vraiment... Parce que faire de la pédagogie de biologie moléculaire, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, il nous a fait des trucs sur l'odorat, sur le ciseau moléculaire, des choses comme ça, sur l'immunologie. Alors, il nous a fait des tas de baratins très, très compréhensibles. expliquer comment un vaccin marche. Et là, il fait toute une tirade qui dure un quart d'heure. On dit, on l'écoute très bien. Puis après, il dit, ben, si vous, ce que je viens de vous raconter, c'est de l'immuno pour les nuls. Parce qu'il a dit, l'immunologie, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et même moi qui suis dans la partie, je ne connais pas tout le champ de la connaissance actuelle sur l'immunologie. Donc il a un grand don de la pédagogie parce qu'il essaye de se mettre au niveau de qui suppute de notre public, mais il est absolument génial. La médecine chinoise. Et pour revenir aussi des choses sur Terre, ben, vous savez, on vous fait des prises de sang pour un oui ou pour un an maintenant. Et comment se fait-il que quand on vous fait la prise de sang à 8h du matin, à 3h de l'après-midi, vous avez le résultat sur votre mail, quand tout marche bien? C'est quand même magique, ça. C'est quand même magique. Eh bien, en fait, c'est vachement compliqué. Et j'ai demandé à la directrice du labo Boussicaut de nous faire la conférence comment ça marche dans un labo d'analyse médicale. Et puis, une fois qu'on aura bien compris, eh bien, on aura droit à la visite du labo d'analyse médicale Boussicaut. Voilà. OK ? Alors là, on a la chance parmi le petit-fils, un petit-fils de notre ami Michel, c'est un candidat astronaute. Il est doublure de la dame qui a été sélectionnée par l'ESA pour aller sur la station spatiale internationale. Donc il est la pièce de rechange. Mais enfin, hein, et sur la Lune aussi. Et sur la Lune aussi. Donc, grâce à l'entregent de notre ami Michel, on l'a convaincu de venir nous faire une conférence. Et donc il viendra dans l'année. Le jour où il pourra, s'il n'est pas sur la Lune, mais bon, je crois que le risque est faible. Donc c'est un polytechnicien, mais qui est dans le militaire, quoi, on va dire, puisque en général, ce genre de sport, c'est plutôt réservé aux militaires. Donc il faut être costaud. Et donc, on aura un exposé par quelqu'un qui est au cœur du sujet. Ah, c'est celui-là, c'est moi qui l'ai demandé. Ah, est-ce que vous connaissez M. Engenieux? Vous n'avez jamais entendu ce nom-là? Ben, vous allez l'entendre. Engenieux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé le zoom. Le zoom, l'objectif à vitesse à focale variable. C'est un gars, un opticien de génie. Il est décédé, hein, je vous rassure tout de suite. Et voilà, très difficile à trouver une photo. Et sur tous les... Par exemple, tous les appareils photo qui étaient sur le LEM, sur les expéditions lunaires, étaient avec des objectifs Engenieux. Et pas des objectifs ni allemands, ni américains. Voilà. Alors, ce monsieur-là, il est aussi lié à nos adhérents, là, et il nous a fait un truc sur les utilisations des lasers l'année dernière. Je ne sais pas si vous étiez venu. Il est bon. Son métier, c'était les technologies de l'optique. Et il se trouve qu'il a travaillé, il a connu ce monsieur. Donc, on dit toujours, ben, on attend les Français, les machins. Alors, le zoom Engenieux, je vous donne un film que vous connaissez tous, Le salaire de la peur. Vous avez vu Le salaire de la peur avec Yves Montand et Charles Vanel. Il y a une scène qui est célèbre dans c'est quand le camion est au-dessus du ravin, puis qui fait une marche arrière, puis qui laisse sur un truc qui tient par le bout des cheveux. Et eh bien là, vous avez, c'est la première fois où on a un travelling avec un zoom optique qui est fait, où il y a un plan large, et puis tout doucement, ça se rapproche, et on voit en téléobjectif le camion qui est à la limite de se casser la gueule dans le ravin. Donc, 1953, c'est la première fois qu'on a utilisé un zoom sur une caméra de prise de vue de cinéma. Et puis, on termine avec le nucléaire. Vous savez que je baigne dedans que depuis que je suis tout petit. Donc, on aura une conférence avec ce qu'on appelle l'EPR2, c'est-à-dire l'EPR qui est moins compliqué, moins cher, plus rapide à construire, qui est en train de démarrer sur le site de Penly. Voilà. Alors, au mois de septembre, on a une conférence particulière qui est faite en coopération avec la SFEN, Société Française d'Énergie Nucléaire, d'octobre à février, d'octobre 2022 à février 2023, il y a eu 60 personnes qui ont été auditionnées dans une commission parlementaire et tout a été télévisé et c'est enregistré. Et toutes les vedettes du nucléaire depuis 30 et même 35 ans ont été interviewées en disant « Dites-nous ce que vous avez fait quand vous étiez en situation de décision. » Et là, c'est la première fois, moi qui connais bien le sujet, où on a vu tout le monde, pas en même temps, successivement, et l'hypocrisie des uns par rapport aux autres, je ne prendrai pas parti, vous connaissez mon opinion sur le sujet, mais a été mise en évidence d'une façon publique et documentée. Pour faire court, l'abandon au moins temporaire du nucléaire n'était pas basé sur des raisons techniques, il était basé sur un accord électoral entre les écolos et les socialistes. Et ça a été dit publiquement par les personnes intéressées. Madame Voynet, Monsieur Hollande, le président Hollande, Sarkozy a été interviewé. Donc là, le cumul des vidéos, ça doit bien faire 60 heures. Donc c'est pas possible de l'écouter. Donc j'ai demandé à une personne de la SFEN, Michel Simon, là de Lyon, qui nous fasse un petit topo synthétique sur les conclusions de ces auditions, le plus neutre possible. Et ensuite, il fera, dans une deuxième partie, des présentations, comment dire, de dire, ben, par exemple, expliquer les renouvelables qui sont intermittents par rapport au nucléaire qui est en fourniture de base, voilà, des choses un petit peu basiques sur le fonctionnement des réseaux électriques. Et là, celui-là, Yves Bréchet, c'était le haut commissaire à l'énergie atomique jusqu'en 2018. Il s'est fâché avec Macron et il lui a fait un bras d'honneur parce que il n'est pas très diplomate lui. Hein, c'est un peu le genre rentre dedans. Bon, il n'y a qu'à voir son style. Hein. Je l'ai rencontré personnellement. Et là, il est dans les auditions. Vous cherchez sur Internet. Vous allez voir, il a fait dans la mitrailleuse lourde, quoi. Donc, je pourrais l'inviter parce que je sais où il habite. Il habite pas très loin de Pouilly-en-Ossois. J'ai mes agents pisteurs l'ont repéré. Mais je dis, à mon avis, ça va. On n'est pas l'audience pour faire ça. Il nous ferait une diatribe sur tout le système. Donc ça apporte pas grand-chose. Il faut mieux quelqu'un qui soit plus neutre et plus posé nous fasse un exposé synthétique sur l'ensemble des exposés qui ont été faits. Oh, bien encore, ça n'arrête pas. L'histoire de l'égyptologie et François Chabas, encore un chalonnais de service, hein, donc milieu du 19e siècle, qui lui n'a jamais mis les pieds en Égypte. Il a sa statue dans le square de son même nom. Hein. Et en fait, qu'est-ce qu'il était? Il était le président de la chambre de commerce de Chalon. Mais son hobby, c'était de décrypter les hiéroglyphes. Donc avec des livres, les livres de Champollion. Champollion et surtout Champollion Figeac, c'est-à-dire le frère aîné de Champollion, parce que Champollion il est mort plus jeune, il est allé lui en Égypte, puis il en est revenu, il en est mort, il attrapait des maladies. Par contre, son frère aîné, Champollion Figeac, puisque c'était des gens de Figeac, il a fait des sommes érudites sur toute l'œuvre de son frère, qui étaient des références sur les choses. Après, avec toutes les transcriptions, avec les photos, disons, en 1870-80, il y avait des photos, des hiéroglyphes qu'on pouvait ramener, et donc ils pouvaient travailler en chambre sur la traduction des hiéroglyphes. Alors, Bruno Jacomi, ça c'est un copain que j'essaye d'inviter depuis des années, il a été directeur adjoint du musée du Conservatoire des Arts et Métiers à Paris. Mais il a fini sa carrière comme directeur adjoint du musée des Confluences. Et il avait fait une petite thèse, on va dire, sur le truc. Mais qu'est-ce qui motive les chercheurs, les Galilées de service, évidemment, vous avez deviné, à faire finalement leur recherche? Qu'est-ce qu'il les gratouille quelque part en disant « faut absolument que je fasse quelque chose ». C'est pas si facile que ça à répondre. Donc il a fait une petite thèse en disant « au bout du bout, ben, c'est l'amour du jeu. Je m'amuse en faisant de la science et de la recherche ». Bon, c'est une hypothèse, hein, mais bon, quand vous voyez Newton... Newton et s'amuser, c'est un oxymore. Hein. Newton, c'était le plus tristouné des scientifiques. Comme a dit son valet, on va dire, il a dit en 20 ans, je l'ai vu rire une fois. Donc, c'était pas un drôle. Hein. Mais enfin, bon, ça devait lui plaire puisqu'il a fait, ce qu'il a fait. Hein. Et puis, ça y est, on arrive à la fin. Alors, je rappelle que le 26 octobre, nous fêtons le 40e anniversaire de notre association, qui a été fondée en 1983. Donc, le 26 octobre, c'est au conservatoire, c'est un jeudi, donc c'est l'après-midi. Donc, on va faire des petites palabres, comme d'habitude, mais originales, et il y a une séquence d'une demi-heure qui est secrète jusqu'à ce qu'on vous la dévoile, machin, et donc qui va vous intéresser. Mais on n'en parle pas pour le moment, donc vous verrez des choses auxquelles laquelle vous ne vous attendez pas. Voilà. Et la conférence finale, on va dire, de cet anniversaire, c'est Ahmed Djebbar, à qui j'avais demandé initialement de dire... Ben, pourquoi c'est difficile de faire passer le message scientifique dans le public? Alors, quand vous êtes scientifique, vous êtes un peu désemparé parce que vous ne savez pas quoi dire. Hein. C'est difficile. Alors, j'ai bien vu qu'il était un peu désemparé quand je lui ai demandé ça. Je rappelle quand même qu'il a été ministre de l'Éducation nationale en Algérie et puis qu'il a une expérience d'enseignant. Alors, on a convenu de changer un peu le programme, et il a dit « je vais faire mon autobiographie, mais d'enseignant », en disant d'où je viens, et qu'est-ce que j'ai fait, et comment, quelle relation j'avais avec mon environnement. Et le lendemain, on lui fait, parce que ça va être sa dernière conférence à l'UTB, il a 84 ans, donc il a envie un peu de lâcher les manettes, on va faire une conférence débat sur ce thème-là. Et pour ça, j'ai trouvé un trio d'enfer. Donc lui, j'ai convoqué Gilles Bertrand, peut-être certains d'entre vous le connaissent, Gilles Bertrand, c'était le président de l'université à Dijon, l'homme à barbe, hein, qui est venu déjà plusieurs fois nous faire des conférences ici, et qui a dit, je veux bien, mais on a deux scientifiques, hein, il faut une contrepartie. Il faut le candide de service qui pose les questions ouais, j'y comprends rien ou pourquoi ceci cela. Et donc j'en ai trouvé une qui a accepté de faire ça, c'est Catherine Weissmann. Et vous savez, Catherine Weissmann, c'est une débatteuse très forte et qui a un don d'improvisation extraordinaire. On va quand même se préparer un petit peu à l'avance. Et donc, on fera ça le lendemain, je pense, ici. Voilà, conférence, débat sur la difficulté de faire passer le message scientifique. Et voilà. Donc, je rappelle l'intérêt de la formule de prendre ce que j'appelle le replay, c'est-à-dire de pouvoir réécouter les conférences qu'on a loupées qu'on a oubliées. Donc, ça coûte 20€ en plus, ben, n'hésitez pas, c'est sympa. Et puis voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et j'ai même tenu le planning, c'est extraordinaire ça. Hein, voilà. Et vous avez le droit de poser des questions, voilà. Donc je rappelle comment ça marche, hein, vous connaissez tous l'UTB. Le planning, il est sur le site, puisque les dates sont et les salles sont susceptibles de changer quasiment en temps réel. Donc ayez le réflexe toujours, avant de venir à la conférence, de vérifier qu'il n'y a pas une annulation de dernière minute ou de dernière seconde, et que la salle est bien celle qui était marquée sur les papiers. Puisque je rappelle qu'on vous envoie tous les mois par mailing le bulletin mensuel, qui est la formule traditionnelle. L'intérêt du bulletin mensuel, surtout, c'est que ça fait une synthèse de toutes les activités. C'est-à-dire, ça parle de ça, des voyages, des groupes, des choses comme ça. Alors que sinon, il faut aller à la pêche sur toutes les informations si vous êtes, si vous cherchez qui le groupe. Littérature, qui le cours d'anglais, qui le voyage machin, etc. Donc tout est sur le site, mais dans des endroits différents. Tandis que sur le bulletin papier, entre guillemets, vous avez toutes ces informations qui sont regroupées dans un même document. Voilà. Voilà, ben, j'ai rien de plus à dire s'il n'y a pas de questions. Donc ceux qui n'ont pas la plaquette et qui ont été sages de ne pas la lire pendant mon exposé. Donc vous pouvez venir en prendre, il y en a encore quelques-uns ici. Et puis sinon, ben, donc faites passer le message pour les gens qui étaient dans l'industrie, s'ils veulent faire des témoignages pour ce qui s'est passé dans l'industrie chalonnaise, eh bien, on les accueille avec grand plaisir. Voilà, merci. Faire des témoignages pour ce qui s'est passé dans l'année.